De retour à Delirium environnemental, pour ceux qui nous écoutent sur Internet au www.radiodelirium.net, on est en deuxième portion d'émission. Ceux qui nous écoutent en ondes à CIBL, vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, vous irez voir quand même notre site, ça vaut le détour. On poursuit donc la revue de l'actualité, revue de presse cette semaine. Des choses encourageantes et des choses déprimantes. Monsanto, connaissez-vous Monsanto? Monsanto, c'est une compagnie qui produit bien des choses, dont des organismes génétiquement modifiés, dont des pesticides, dont le Roundup, qui est en fait du glyphosate, un pesticide. En tout cas, je pourrais vous parler longtemps de Monsanto, mais c'est pas moi qui vous en parler, c'est Hugo, parce qu'enfin, Monsanto, qui était aussi ceux qui avaient produit le napalm, l'agent orange utilisé pour défolier tous les arbres et tuer les gens au Vietnam, enfin se retrouve au banc des accusés.
Eh bien oui, imaginez-vous donc qu'il y a une cour de New York qui vient de recevoir un dépôt d'un groupe de citoyens vietnamiens qui ont décidé de d'amener Monsanto en cour. En fait, non seulement Monsanto, mais une trentaine de compagnies, dont Dow Chemicals, une des compagnies dont on vous a parlé souvent, la compagnie qui était responsable du
drame de Bhopal.
Exactement, ouais.
Qui avait d'ailleurs changé de nom depuis. Ah non, c'est vrai, c'était avant.
Qui a acheté, en fait. Union Carbide, qui était le responsable de l'événement de Bhopal, s'est fait acheter par Dow Chemicals.
Ça, c'est bien pratique parce qu'à cause de ça, ils n'ont pas été poursuivis.
Eh oui. Alors, lorsqu'on vous dira Monsanto, Dow Chemicals, même combat, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, cette semaine, il y a ces groupes de Vietnamiens-là qui ont décidé de demander des réparations pour dommages causés. Et donc, on parle de malformation congénitale, on parle d'exposition à des niveaux élevés de dioxines. En fait, l'agent orange, en fait, c'est un défoliant qui a été utilisé durant la guerre du Vietnam pour éclaircir les forêts, pour pouvoir voir les ennemis, mais aussi pour détruire leurs récoltes, pour s'assurer de limiter la prolifération des petits communistes. Et donc, ces gens-là ont vraiment vécu des calvaires. Il y a plusieurs milliers, en fait, plusieurs millions. En fait, on parle d'à peu près 3 à 4 millions, selon les sources, de personnes qui auraient été affectées par l'agent orange. Et ça a provoqué toutes sortes de cancers, malformations congénitales, fausses couches, mauvais fonctionnement de différents organes. Il y a des enfants qui sont nés sans yeux, sans bras et ainsi de suite. L'horreur, le drame, la totale. Et c'est aujourd'hui que ces gens-là sont venus directement du Vietnam vers les Amériques, vers New York, en fait, pour lancer une action collective. Non, c'est pas un groupe, c'est une action collective. C'est une action collective d'un groupe qui veut en fait s'assurer qu'il y ait non seulement un nettoyage environnemental, mais aussi des compensations. Et si ça pouvait arriver, en fait, on pourrait parler de quelques 180 milliards de dollars qui pourraient être répartis sur ces gens-là et sur la réparation de l'environnement là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, en fait, c'est que pour le moment, les compagnies se disent, mais voyons, vous pouvez bien imaginer, là, mais voyons, aucun lien n'a été prouvé. Oh! Entre l'agent orange et toutes ces malformations-là. Étrangement, en 1984, à peu près une dizaine d'années après la guerre du Vietnam, il y a un regroupement de vétérans de la guerre du Vietnam qui ont demandé compensation et qui ont été compensés avec 180 millions de dollars.
Ils demandaient compensation parce qu'eux aussi avaient été exposés au napalm?
Ils avaient été, oui. Les soldats américains ont été exposés au napalm. On a répertorié des pertes de jambes, des pertes d'ongles, des pertes de toutes sortes de membres, puis toutes sortes de conditions de santé défaillantes. Et finalement, Monsanto avait décidé de régler le problème hors cours en leur dédommageant quelques 180 millions de dollars sur le spot, sans trop de discussion.
C'est une belle façon, on règle hors cours, puis comme ça, en plus, on s'assure qu'il n'y a pas de jurisprudence. Peut-être, tout à l'heure, t'as souligné rapidement les divers problèmes de santé que ça crée. Ce que je trouve important, peut-être, de souligner, c'est que c'est pas terminé dans le temps, parce que ces produits-là sont souvent bioaccumulables. Tout à l'heure, tu parlais de dioxines et furanes, qui sont des organochlorés, et donc bioaccumulables, et qui s'attaquent, entre autres choses, au système endocrinien, donc au système hormonaux humain, animaux, etc.
Exactement. Et ça continue. Donc, les gens sont encore victimes de ces problèmes.
Mais on ne voit pas beaucoup d'images. On n'en entend pas beaucoup parler. Puis si ça saute, ça va peut-être réveiller les gens à ces horreurs-là qui ont été faites.
Il y avait une foutue photo troublante sur l'article, je vais vous dire.
Ah oui, vas-y donc.
Ben,
c'était
en fait,
quoi?
Ben, c'était un visage d'une personne vietnamienne avec... Bon, le visage avait l'air complètement enflé, les yeux complètement sortis de la tête, mais carrément étrange, là, et c'était une malformation congénitale. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que les compagnies, eux autres, disent « Mais finalement, écoutez, ce qu'on a fait, c'est simplement suivre les ordres du commandant en chef en temps de guerre qui nous a demandé de produire ces produits-là. » Le commandant en chef, à l'époque, je crois que c'était Hoover, était responsable, lui, du bon usage de ces défoliants-là. Et donc, eux autres, ils se disent, finalement, on n'a pas de responsabilité là-dedans, et s'il y a une responsabilité à donner, c'est au gouvernement américain qui a mené cette guerre-là. Le département de justice américaine s'est reviré de bord en disant, non, il va falloir que vous, monsieur le juge qui a été nommé pour s'occuper de cette cause-là, il va falloir que vous, monsieur le juge, décidez de mettre un terme, de ne pas accepter de prendre la cause en cours, parce que ça pourrait limiter les capacités du président américain de bien mener des guerres dans le futur.
Oh my God! Hey, merci beaucoup, Hugo. Où est-ce que tu as trouvé cet article-là?
Eh bien, ça provient, en fait, je l'ai trouvé sur les nouvelles de la BBC et sur Planet Arc, donc les nouvelles Reuters.
Eh bien, tout ça sera disponible sur notre site Internet à nous au www.radiodelirium.net. On revient, on va parler de Berlioz au retour, qui est un autre problème qui nous affecte ici au Québec, en fait, certains anciens employés d'une compagnie. Puis je vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on reçoit un de ces militants qui est en procès aujourd'hui pour s'être opposé à l'incinérateur de Bennett au Nouveau-Brunswick. Ça vaut la peine, restez avec nous.
Chez Monsanto, depuis plus de 80 ans, nous avons mis en marché des produits ultra-révolutionnaires comme les BPC tels que ceux brûlés à Saint-Basile.
Oui, papa!
L'agent orange répandu à coups de milliers de litres sur les campagnes vietnamiennes.
Oui, papa!
L'herbicide Roundup avec ses petits copains, le maïs Roundup Ready, le soya Roundup Ready, le canola Roundup Ready.
Oui, papa!
Les petites betteraves qui brillent dans le noir, des tomates qui poussent déjà tout emballées avec du Saran Wrap et bien plus encore!
Oui, papa!
Chez Monsanto, on contrôle plus de 90% des cultures d'OGM dans le monde et nous sommes vendus dans tous les bons marchés à deux pas de l'église.
Oui, papa!
Vous écoutez toujours Delirium environnemental. Moi, je trouve que la nouvelle sur Monsanto, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement dramatique là-dedans. Je veux dire, cette compagnie-là continue de produire des produits à tour de bras, là. C'est des produits qu'on envoie dans nos champs.
Même à faire des bidous à tour de bras.
Et beaucoup, beaucoup de bidous.
Ben, moi, j'ai bien peur que cette cause-là ne soit jamais entendue, et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est mieux de vous en parler tout de suite.
Oui, avant qu'il ne soit trop tard. On revient ici au Québec. Une autre compagnie au banc des accusés, parce que il y a des victimes de la berylliose. D'abord, c'est quoi la berylliose?
De qu'est-ce qu'on parle?
De qu'est-ce donc ça?
Eh bien, la berylliose, c'est une maladie qui surgit lorsqu'on entre en contact avec du beryllium. Le beryllium, c'est un composé chimique du fameux tableau périodique. Rappelez-vous votre cégep, s'il en fut un.
Eh bien, secondaire 4.
Ou secondaire 4 aussi. Eh bien, le beryllium qui, lorsque, entre autres, on traite des métaux, eh bien, peut se retrouver en poussière dans ces métaux-là si des personnes non protégées inhalent ces poussières-là, eh bien, peuvent avoir une maladie qui s'appelle la berylliose. Il y a la berylliose et la berylliose chronique. Dans les deux cas, c'est des manifestations cutanées et rénales et surtout des problèmes pulmonaires, donc congestion pulmonaire, de la toux, détérioration des fonctions pulmonaires. Et lorsque cette maladie-là est chronique, eh bien, c'est qu'elle ne peut pas être soignée, elle est traitée mais pas soignée, donc on va donner tout le reste de la vie de la personne des médicaments pour atténuer les impacts de la maladie, mais cette personne-là ne pourra jamais en guérir.
Donc, 9 personnes sont atteintes de berylliose au Québec et poursuivent la compagnie responsable, et ça nous fait plaisir de dire que la compagnie responsable, c'est
Noranda. Eh bien oui, des gros méchants, il n'y en a pas juste aux États-Unis, il y en a chez nous aussi. Noranda, qui est très connue, entre autres, à cause de la mine qu'il y a à Rouen, qui porte entre autres le nom de l'usine, c'est totalement ridicule. Mais bref, avait une fonderie, la fonderie Gaspé à Murdochville. Eh bien, une vérification de la commission de la santé et sécurité au travail, la fameuse CSST, lui a permis de conclure qu'il y avait à la fonderie Gaspé des manques totaux en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs qui ont été exposés à du beryllium. Et ces travailleurs-là, eh bien, un a commencé à faire des procédures légales, mais il y a 9 personnes qui sont aujourd'hui atteintes de berylliose chronique, donc qui sont pris avec ça jusqu'à la fin de leur vie. Et bien entendu, chez Noranda, on se dit, mais non, mais nous, on n'a jamais été dans le tort. Il n'y en a pas de problème. Premièrement, les vraies connaissances relativement à la fameuse berylliose, c'est juste depuis 1996 qu'on les a. Mm. Et les plaintes sont survenues avant, donc on peut pas être tenu responsable. Mais les fameuses plaintes qui sont survenues avant, c'est suite à des découvertes de concentrations allant de 40 à 1000 fois au-dessus des normes provinciales en matière de beryllium. Donc c'est pas juste une petite émission, là, c'est vraiment, on respire dedans puis travaille.
Mets-toi le
nez dedans, mais produit. Eh bien c'est ça, donc on est avec cette situation là. Et quand on parlait tout à l'heure dans le cas de Monsanto d'une cause qui va peut-être ou pas aller devant les tribunaux, eh bien au Québec on ne peut pas aller présentement devant les tribunaux. Il va falloir que justement le fameux travailleur qui traîne Noranda devant la justice trouve une entourloupe, permettez-moi d'utiliser ce mot-là, parce qu'on ne peut pas au Québec, aller en cours et traîner une compagnie pour des actions qui ont été responsables si le fait remonte à plus d'un an. Donc, vu que c'est un cas qui est assez vieux,
par exemple, ça veut dire qu'au Québec, on ne pourrait pas poursuivre les compagnies de tabac.
Les combien de tabac, pour quel type de poursuite?
Ben pour ça, exactement. Tu sais, si on dit les effets nocifs dans le temps, etc.
Et ben là, on pourrait peut-être contourner en prouvant que si on a encore été fumeur dernièrement, il y a peut-être un problème. Mais là, dans ce cas-là, c'est très clair. Les faits sont avant 96. Mm. En 96, la compagnie a des preuves qu'elle a pris des mesures pour faire attention. Donc, Noranda est blanc comme neige dans ce cas-là, parce que c'est pas leur faute. Ils ont suivi la loi. Mm. Et bien, c'est peut-être dans un cas comme ça qu'on voit qu'un cas comme la charte de l'environnement en France, qui va supplanter d'une certaine façon, qui va permettre de supplanter le droit qui existe actuellement, pouvoir faire intervenir des nouvelles considérations dans la jurisprudence, va peut-être donner la chance à des employés comme ça d'aller au moins se faire dédommager le coût des médicaments.
S'il vous plaît. En tout cas, je pense que Noranda devrait juste avoir la décence de le faire. Là, peu importe qu'ils veulent aller en cours ou pas, ils pourraient quand même régler à l'amiable pour ces choses-là. Bref, un dossier important qui sera à suivre parce qu'ils veulent aller devant les tribunaux, mais ce n'est pas encore fait. Bien, messieurs, dames, atteints de berylliose, on est avec vous.
Je pense qu'à ce niveau-là, c'est super important de mentionner que tout récemment, il y a un film qui a été produit, un documentaire qui s'intitule « Make Money, Salut, Bonsoir
».
Entre autres, fait par M. Martin Frigon, qui, je crois que c'est sur une industrie à Murdochville où il y a plusieurs personnes qui ont été fortement affectées par la berylliose, et puis ils ont monté un documentaire là-dessus.
Le titre étant
Make Money, Salut, Bonsoir. Ça a l'air que c'est une des phrases clés qu'une des personnes prises en entrevue a mentionné. Tout ce que l'industrie veut faire, c'est du
Make
fric.
Money, Salut, Bonsoir.
Faut de son camp.
Excellent. Ben, on a de belles suggestions de documentaires à courir voir. Rapidement, on a-tu le temps d'aligner sur pas vraiment, hein?
Non, on reviendra après la pause.
Je pense que c'est un peu serré pour parler de la 25. Mon retour, on parle de la 25 et on s'en va en Australie. De retour à Delirium environnemental, on poursuit la revue de presse, la revue de l'actualité cette semaine. Un dossier qui fait jaser. D'un côté, on parle de développement durable au ministère de l'Environnement et dans tout le gouvernement Charest, on parle de développement durable. Et de l'autre, on veut construire des pompes, qu'il y ait plus de chars à Montréal. Puis en plus, ils viennent nous dire que ça diminuerait les émissions de gaz à effet de serre.
Oh, ils disent pas mal n'importe quoi, hein?
Ouais.
Des autoroutes, on pourrait vous en parler. Il y a la 30, la 50, la 25. Il y a les routes 173, 175 et une autre dans le bas du fleuve, je pense. Bref, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, et ça fait depuis le début depuis Noël que je vous le dis, que ça va devenir notre surroi numéro 2, c'est le fameux dossier de l'autoroute 25, le prolongement de la 25 entre Montréal et Laval. Et bien, simplement pour vous tenir au courant de deux faits qui sont survenus cette semaine. Premièrement, vraiment, c'est très décevant. Le CREU, le Conseil régional en environnement de Laval, se retire de la coalition contre l'autoroute 25. Ce qui est important de mentionner, c'est que contrairement au CREU Montréal, qui est essentiellement supporté par des groupes environnementaux, des groupes écologistes, des groupes citoyens, eh bien, à Laval, c'est entre autres l'administration de la ville qui supporte le CREU et la Chambre de commerce.
Curieux. Ici, on entend « supporte financièrement ».
Entre autres, mais donc c'est mais ce fait-là, c'est dans le fond le CREU de Montréal est un des seuls, même je voudrais le seul CREU au Québec qui a cette position-là de représenter davantage les groupes environnementaux. Les autres doivent toujours être à cheval entre le milieu industriel et le milieu populaire.
Mm-hmm.
Une deuxième nouvelle, un sondage qui est sorti aujourd'hui même, donc désolé de dire aujourd'hui, mais c'est ce 1er mars 2005, eh bien, un sondage commandé par la coalition contre l'autoroute 25, un sondage réalisé par Léger Marketing, donc c'est du sérieux, eh bien, un sondage qui dit que 76 des Montréalais privilégieraient le développement des transports en commun, 76%, ouais, pas 76 Montréalais, si vous regardez, pour cent des Montréalais privilégieraient le développement des transports en commun, plutôt que le prolongement de l'autoroute 25 et la construction du pont. Quand on fait juste parler du pont, eh bien, on se rend compte que c'est même pas un Montréalais sur deux qui est en faveur qu'il y ait un pont. Et là, on parle pas de l'autoroute, hein. Juste le fait qu'on rajoute un pont en Montréal et Laval, même pas un Montréalais sur deux est en faveur de ça. Et le sondage démontre que 71% de la population est déçue de l'inaction du gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du transport. Je vous invite à aller voir tous les résultats et tous les communiqués aussi qui proviennent de la coalition contre la 25 au www.cremontréal.qc.ca/non25.
Non, 25, mais ça sera sur notre site internet, bien entendu.
En fait, j'ai seulement vu le communiqué, mais je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce que les gens de Laval, eux, en pensent.
Ça doit être une autre position complètement.
Et voilà, ça doit être assez différent, je crois.
Ça pourrait être curieux de... On pourrait s'apercevoir que... Pas tant que ça, je sais pas, en fait.
En fait, dans les choses intéressantes, c'est de savoir que ça permettrait à 150 000 véhicules de plus. C'est ce qu'ils pensent, que 150 000 véhicules de plus par jour, soit l'équivalent de l'autoroute 15 ou de la 13, serait augmenté à la charge toxique, mais en tout cas à la charge de trafic de Montréal. Puis je trouve ça drôle parce qu'ils ont le culot de nous dire au gouvernement Charest que ça serait mieux pour les gaz à effet de serre parce qu'en fait, les gens seraient pas pognés dans le trafic, ça roulerait plus vite, donc il y aurait moins de gaz à effet de serre. Calcul un peu douteux.
Il y a un deuxième cas qui est un peu analogue, quoi qu'il qui comporte beaucoup plus de kilomètres, c'est le fameux élargissement de la 175 entre Québec et le lac Saint-Jean. Mmh. Là, présentement, c'est encore deux camps. Les gens du Saguenay attendent cet élargissement-là depuis 50 ans. Les élus là-bas utilisent des arguments tels que il n'y a pas une famille au lac Saint-Jean qui n'a pas perdu un membre sur la 175. À l'opposé, les gens principalement de la région de Stoneham-Shannon, eux autres veulent aller devant le BAP, le Bureau des sciences publiques en environnement, pour aller voir le bien fondé environnemental de la question. Et au Lac-Saint-Jean, on est en train de demander au ministre de l'Environnement de contourner cette procédure-là pour assurer que les délais soient respectés et qu'on construise la route le plus vite possible. Peut-être que Laval et Montréal, c'est la même dynamique qui va s'organiser.
Peut-être, mais tu nous en parleras tout au cours du printemps s'en vient. J'en doute même pas.
Je pense qu'au niveau de la 25, il faut mentionner que le CREMTL.QC.CA/NON25 pourrait vous intéresser. Allez jeter un coup d'œil.
Et bien sûr, ce sera sur notre site Internet à nous. Hugo, nouvelle, on se transporte à l'autre bout et littéralement à l'autre bout de la planète, les récifs coralliens, mais en fait, le plus grand récif corallien du monde. Une découverte étonnante.
Étonnante, ma foi, inquiétante. À vrai dire, en fait, il y a des chercheurs qui ont trouvé des arbres dans le grand récif corallien d'Australie.
Des arbres?
Des arbres sous l'eau. Plusieurs mètres sous l'eau, en fait, des arbres de 70 cm qui avaient encore les branches, qui avaient encore les feuilles.
Mais 70 cm, c'est tout petit, là.
C'est tout petit, mais c'est des morceaux d'arbres. Il y a des récifs qui ont grandi alentour aussi. Okay. Peut-être que les plus grands arbres n'ont pas duré autant. Mais bref, on a trouvé des arbres avec des feuilles, c'est ça l'affaire.
Dans le récif corallien.
Sous l'eau, dans le récif corallien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, ben, peut-être que les changements climatiques qui ont eu lieu, les changements qui n'étaient pas anthropiques dans ce cas-là, là, les changements climatiques qui ont eu lieu avant qu'il y ait même des humains sur la Terre, auraient pu avoir lieu dans une période de temps beaucoup plus courte que celle qu'on pensait. En fait, on avait estimé à peu près 9000 ans pour que le niveau de l'eau monte au niveau actuel. Et là, on s'aperçoit qu'avec des feuilles qui pendent encore sur des arbres au fond de l'eau, on se dit que ça se peut pas que ça ait pris plus que 30 ans, parce que sinon, les arbres auraient été complètement désintégrés. La thèse qui a été proposée dans le film récemment, comment ça s'appelle?
The Day After Tomorrow.
The Day After, les fameux Rapid Climate Shift, des changements rapides climatiques. Eh bien, peut-être que ça serait pas si grotesque que ça comme idée. C'est ce qu'on est en train de vérifier de plus en plus ici, en fait, en Australie.
Impressionnant quand même, impressionnant. Je serais curieuse de voir l'évolution de ces recherches-là. Donc, des arbres qui auraient été submergés tout d'un coup. Ça ne se serait pas passé petit à petit, ça aurait été soudain, comme dans The Day After Tomorrow. Si vous n'avez pas vu ça, là, un petit film américain.
On parle de soudain 30 ans au lieu de 9000 ans. C'est ça l'aspect soudain. 20 fois plus rapidement, disons.
Que ce qu'on aurait pensé, les hypothèses qui avaient cours présentement.
Exactement.
Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. On serait curieux de voir s'ils ne trouvent pas d'autre chose que des arbres. Quand même assez impressionnant. Je suis un peu sous le choc, excusez-moi. On s'arrête et au retour, ça va être les petites vites. Pêle-mêle cette semaine, déjà. Eh oui.
Il sait que la voiture hybride existe et que la technologie de celle à l'hydrogène est inventée. Mais comme tout le monde, il acquiesce au monopole du pétrole et préfère se balader en 4x4 polluant de Ford. Il apprécie ses quatre roues motrices pour aller au dépanneur car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour un temps limité, procurez-vous le Ford Liberty au coût de 45 999, 0% de financement, service après-vente nul à chier et garantie que tout pète après 5 ans. Certaines conditions s'appliquent.
Job avec salaire de riche est un atout. Se poigner une pitoune avec des grosses boules n'est pas garanti avec ce modèle. Assurer ce véhicule peut vous mener à la faillite et prévoir la moitié de votre paye pour faire le plein d'essence.
Ford. Bien pensé.
Bien pensé.
Ce petit bijou d'anti-pub sur Ford, ça a été trouvé dans une émission qui s'appelle « Idées et débats ». Toutes les informations seront sur notre site Internet pour ceux qui voudraient les réécouter à profusion. Parce qu'on ne se tente pas. Moi, la finale, vraiment, pas de garantie de ces grosses bouches ou ça, papa. Hey, c'est déjà la fin de la revue de presse, revue de l'actualité. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures et des heures encore de ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'en est passé beaucoup. Mais non, c'est en bref les petites vites, pêle-mêle cette semaine. Messieurs, lancez-vous.
Eh bien, ceux qui croyaient que le ministre Pierre Reid avait été affecté de stupidité seulement lors de son passage au ministère de l'Éducation, eh bien, être ministre des services gouvernementaux, ça paraît de changer grand-chose. C'est la citation de la semaine au sujet du Mont Harford, le projet de développement immobilier. J'ai suivi attentivement tout le débat autour du projet du Mont Harford et je me suis bien renseigné. Et vous savez, dans le fond, j'ai même l'impression que les retombées seront positives pour l'environnement si le projet voit le jour. Je continue dans mes citations.
Quand tout et n'importe quoi est possible.
Il y a une compagnie qui s'appelle une compagnie canadienne qui s'appelle Paradigme Environmental Technologies qui a mis au point un produit qui s'appelle le Micro Sludge. En fait, c'est un produit qui permet d'utiliser les boues de stations d'épuration des eaux usées pour produire de l'énergie. Et là, ça pourrait être vraiment un virage fort intéressant. On parle du traitement d'une tonne de boue qui requérait environ 560 kWh et pourrait générer 4500 kWh. On pourrait penser à produire de plus en plus d'énergie avec ces choses-là. Et la ville de Los Angeles décide de faire le virage, ainsi que certaines villes en France.
Moi, j'aimerais que tu me répètes le nom de la compagnie. Je trouve qu'ils sont vraiment pas barrés.
Paradigme Environmental Technology.
There you go! Wow!
Eh bien, allons de technologie en technologie. Savez-vous que les plumes de poulet pourraient devenir un matériau de haute technologie? Eh bien oui, des fois. Mais c'est une idée qui est un peu du n'importe quoi, mais ça peut être intéressant. On pense entre autres à toutes les plaquettes informatiques qui servent à l'intérieur de vos ordinateurs. Donc, remplacer les dérivés pétroliers par les constituants des ailes de poulet. Le seul problème, c'est que cette nouvelle industrie-là dépend directement de l'industrie viandeuse. Et déjà que cette industrie-là est très problématique. Bon, faudrait pas se mettre à manger plus pour faire plus d'ailes de poulet. Là. Fait qu'à un moment donné, fort. Mais présentement, il y a des gros problèmes de déchets de ces industries-là. Si on peut les revaloriser, de cette façon-là, eh bien, allons-y.
Mais seront-ce des poules heureuses?
On jase technologie. Eh bien, connaissez-vous le Oka Express?
Wow.
Un beau projet dans la ville d'Oka, un lien entre la ville d'Oka et la ville, la municipalité de Deux-Montagnes. Un lien qui serait fait par des autobus électriques et hybrides. Et tout ce projet-là implique aussi le développement et la fabrication de ces véhicules-là écologiques sur place. Alors, développement technologique dans la région, mais aussi usage accru de transport entièrement non polluant. Et on s'est aperçu que depuis qu'on a instauré ce système-là, au début on le faisait avec des autobus scolaires, on est passé de 250 utilisateurs à environ 750 dans le temps de le dire, dans l'espace de quelques 3 mois, je pense.
Mais pourquoi les gens trouvaient que ça sentait meilleur?
Build it and they will come!
Eh bien, ceux qui sont horripilés à chaque fois qu'ils voient un développement domiciliaire raser une forêt au complet, reconstruire des maisons puis replanter des arbres après, eh bien, bravo, la municipalité de Lac-Beauport, tout près de Québec, eh bien, a voté une nouvelle politique qui interdit la coupe à blanc lors de développements résidentiels.
Bravo, Lac-Beauport!
C'est
pas si compliqué, il s'agit de te le dire. Hugo, t'as quelque chose sur le diesel qui m'intrigue.
Ben oui, il faut absolument aller voir le Clean Air Task Force qui vient de démettre un rapport qui s'intitule Diesel and Health in America, le diesel et la santé dans les Amériques. Et c'est là qu'on met, on met les cartes sur la table. Il y a 13 millions de véhicules diesel dans les États-Unis et il y a environ 3/4 de la population américaine qui serait exposée aux émissions de ces diesels-là. Ces émissions-là produiraient asthme, cancer, maladies pulmonaires, maladies cardiovasculaires.
Alouette.
Et j'en passe. Alouette. En fait, le plus grand cancérigène existant pour le moment, on s'aperçoit que c'est 7,5 fois plus cancérigène que toutes les autres polluants de l'air regroupés ensemble.
Uh-huh.
Important. Allez voir le Clean Air Task Force. On vous met ça sur le site web.
Bien entendu, qui est au www.radiodelirium.net. Le cancer qui est rendu maintenant la première cause de décès aux États-Unis, qu'on se le dise. Je ne sais pas quand est-ce que les gens vont se mettre à réagir, mais je commence à avoir hâte.
Eh bien, vous savez, le protocole de Kyoto a beaucoup de positifs, mais va faire surgir plein de questionnements, et un qui est important à considérer, c'est celui qui a trait au nucléaire. Vous connaissez les pressions du lobby du nucléaire en lien avec, justement, la netteté de cette production d'électricité.
Mais oui, des déchets pour 25 000 ans.
Eh bien, au Nouveau-Brunswick, il y a le réacteur nucléaire de Pointe-le-Pau qui a été construit dans les années 70, qui arrive à la fin de son utilisation. Eh bien, il y a pas juste Bennett qui va être à s'occuper du côté du Nouveau-Brunswick. La remise en service de cette centrale-là est au cœur des débats de M. Bernard Lord, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Eh bien, c'est un autre sujet pour cette population qui, mon Dieu, se défend vraiment bien et continue à le faire.
Ben oui, on est avec vous.
Pourtant, juste à côté en Nouvelle-Écosse, on a certaines des meilleures centrales de marée motrice au monde. Que c'est décevant.
Nouvelle-Écosse, où est-ce que les stocks de morue sont 20 fois inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 150 ans, et c'est entre autres dû aux techniques de pêche. Raison, une autre bonne raison de slacker la poulie sur le grattage des fonds marins. Hey, c'est déjà ce qui va compléter la revue de presse, revue de l'actualité pour cette semaine à Delirium Environnemental. Je vous rappelle que toutes les nouvelles sont disponibles sur le site internet au www.radiodelirium.net. Hugo Lachapelle, Nicolas Milo, merci beaucoup d'avoir lu pour nous les journaux de la planète et d'avoir été chercher des petites choses tout à fait passionnantes, des dossiers à suivre comme toujours. On va devoir s'arrêter ici. Au retour, troisième partie, on a le plaisir de recevoir Jean-François Dupuis qui arrive du procès où est-ce qu'il est accusé de plein de choses avec 6 autres personnes pour avoir protégé la santé publique au Nouveau-Brunswick. Je vous en reparle. Bravo pour ceux qui s'engagent.